désindustrialisation française.
Immigration
et préservation de l'environnement.
C'est la laïcité.
Système éducatif.
Croissance économique.
La République.
Du développement durable.
Le patriarcat.
La politique économique.
La réflexion sur l'urbanisme.
Vive la République. Vive la France.
Peut-on encore débattre en politique ?
Que veut dire aujourd'hui être de gauche ?
Et surtout, pourquoi ne pas explorer de nouvelles solutions ?
Je suis Lucie Casté, fonctionnaire spécialiste des questions économiques.
Je suis Saïd Benmoufok, professeur de philosophie, spécialisé dans les questions d'éducation.
Je suis Belir Nabli, professeur de droit public et essayiste.
Depuis quelques années, nous avons vu la pensée néolibérale envahir le discours médiatique. La gauche se dissoudre dans des concepts flous, des mots troubles.
Avec ce podcast, nous voulons remettre au centre du débat les fondements de la pensée de gauche, en allant à la rencontre de grands spécialistes qui portent une idée forte, une solution concrète à mettre en place.
Parce que la gauche n'est pas qu'une force d'opposition.
Bienvenue dans « On n'a pas tout essayé », un podcast proposé par l'Obs.
Pierre Charbonnier, vous êtes philosophe, chargé de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po. Vous travaillez sur l'histoire, l'épistémologie et les formes de pouvoir associées au gouvernement de la nature dans les sociétés modernes. Vous avez réfléchi notamment à la dualité nature-sociale qui structure la rationalité sociologique classique. Et vous avez notamment publié en 2020 un ouvrage intitulé « Abondance et liberté » aux éditions La Découverte, qui propose une histoire environnementale des idées politiques. Toujours pour étudier les liens entre sciences politiques et questions environnementales, vous vous penchez désormais plus particulièrement sur les questions de la géopolitique du climat. Aujourd'hui, nous serons deux pour vous recevoir, Pierre Charbonnier, Belir Nabli et moi-même. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si on devait résumer votre objectif, votre aspiration dans vos travaux, il me semble, ce serait de politiser la question écologique. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est assez bien résumé, mais je pense qu'on est très nombreux et depuis très longtemps à vouloir faire ça. Et en réalité, on peut dire qu'on peut essayer de politiser la question du genre, la question religieuse ou autre. Moi, en fait, si on voulait être un tout petit peu plus précis, je pourrais plutôt dire que j'essaye d'écologiser la question politique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire dans la plupart de mes travaux, et en particulier dans le livre que vous venez de citer, « Abondance et liberté », c'est de montrer que la totalité de la structure idéologique et institutionnelle qui caractérise notre histoire et notre présent, disons les sociétés capitalistes, démocratiques, modernes, on peut en fait la relire à travers ce prisme qu'est qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire au milieu, qu'est-ce que ça veut dire la richesse, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire avec les ressources, quelles limites on pose à notre action. Quel rôle ont les techniques, les sciences ? Parce qu'au fond, on a dit depuis, en gros, disons la Révolution française, la politique ne peut plus être arbitraire, ça doit être rationnel. Rationalisation des comportements individuels, du système législatif, des mécanismes institutionnels, mais aussi de notre approche du milieu. Par exemple, c'est la conquête des gains de productivité par la technique dans le développement industriel. C'est le réaménagement des espaces agricoles. Donc, on se fait une promesse à nous-mêmes qui est d'être rationnel, d'être autonome. Et en fait, une bonne partie de cette injonction qu'on se fait à nous-mêmes transforme notre façon dont on conçoit l'environnement, le milieu, la nature, les limites.
Et vous opposez l'arbitraire au rationnel. Et est-ce qu'on peut pas aussi opposer l'arbitraire au démocratique dans un sens politique.
Oui, bien sûr, tout à fait. Donc la conquête de l'autonomie politique, comme on dit quand on fait de la philo, ou en fait bêtement de la démocratie, des idéaux de liberté et d'égalité, chez nous, ça va avec une transformation de nos rapports au milieu naturel qui est fondamentale. La souveraineté de l'État à travers ses frontières, c'est une façon d'aménager l'espace. L'attribution aux individus d'un droit de propriété individuel ou collectif, c'est un rapport aux ressources. L'idée que l'État a une capacité d'orientation des investissements dans les grandes infrastructures, de logement, de transport, c'est une manière de transformer le milieu naturel. Donc aujourd'hui, la raison pour laquelle je dis, donc moi j'essaie de d'écologiser la politique plutôt que de politiser l'écologie, c'est qu'aujourd'hui, l'impératif climatique, l'impératif environnemental de manière générale, on ne peut pas le concevoir comme un silo ou un aspect de la politique à côté des autres. Ça nous oblige à reprendre à la racine le projet de conquête de l'autonomie, le projet de rationalisation de la coexistence collective à l'intérieur des États et entre les États. Et moi, c'est comme ça que j'essaie de poser le problème.
Quand on disait politiser la question écologique, c'était aussi penser la question écologique en termes de rapport de force. Et justement, je trouve qu'un très grand apport de vos travaux, c'est de participer à déconstruire l'idée selon laquelle le virage écologique, si on peut appeler ça comme ça, serait une aspiration universelle. Je trouve que vous dénoncez justement cette tentative d'avènement d'une écologie de, que vous appelez de communion universelle, pour promouvoir plutôt une écologie des choix idéologiques et des choix politiques. Ça a, par exemple, trouvé une illustration concrète très importante au moment du mouvement des Gilets jaunes, puisqu'en fait, là, ça a très bien montré qu'il n'existait pas de consensus s'agissant des solutions à mettre en œuvre en matière écologique. Pourquoi, selon vous, et là, je vous cite encore une fois, l'unanimité dont elle se prévaut, donc elle, l'écologie, est feinte, incantatoire et inefficace?
Oui, c'est une question extrêmement importante. C'est ça aussi, c'est structure une bonne partie de mes réflexions, à la fois en tant que chercheur et aussi comme quelqu'un qui participe au débat public. Alors, peut-être la première chose à rappeler, c'est que c'est pas du tout un hasard si la cause environnementale s'est structurée historiquement comme quelque chose, comme vous dites, qui prenait la forme d'une grande communion universelle, parce que le début du mouvement environnementaliste, c'est la guerre froide. C'est des gens qui disent, bon, en fait, nous, on va pas arbitrer entre l'Est et l'Ouest. Notre cause, elle est effectivement universelle parce qu'elle est guidée premièrement par la science. Hein, c'est la science qui nous dit que des espèces sont en danger, que des milieux sont menacés. Et aussi parce qu'il y a un arrière-plan, c'est très net, chez les fondateurs de Greenpeace, par exemple, ou d'autres, il y a un arrière-plan un petit peu religieux, l'idée qu'en fait, le destin de l'humanité se trouve dans effectivement une grande communion cosmopolitique et que les partages entre nations, Est, Ouest, Nord, Sud, Gauche, Droite, ça colle pas. Et que si on veut vraiment faire en sorte que l'humanité, en quelque sorte, achève sa trajectoire historique, faut aller au-dessus de ça, faut transcender tout ça. Je pense que, même si c'est un héritage qui a son intérêt, qui a sa noblesse, il faut essayer de s'en débarrasser. Pour une raison simple, c'est que les questions, disons, climatiques aujourd'hui sont des questions politiquement structurelles. C'est pas des questions de préservation de tel ou tel espace, de telle ou telle espèce. C'est des questions structurelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des questions distributives. Les politiques qu'il faut construire pour mettre un frein au réchauffement climatique, elles coûtent de l'argent. Ça coûte de l'argent parce qu'il faut financer l'innovation technologique, parce qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, compenser les pertes qui sont liées au fait qu'on a des infrastructures inutilisables, toutes les infrastructures fossiles. Donc, d'une manière ou d'une autre, qu'on renfloue total ou qu'on les punisse, ou je ne sais pas, ça coûte de l'argent. Il faut sortir une partie extrêmement importante de la population de la dépendance à l'égard des énergies fossiles, leurs voitures, leurs maisons mal isolées, dans très nombreux cas, leur profession même. Donc ça, on sait très bien que si on s'appuie sur la volonté des individus, ça ne suffit pas. Comme c'est un projet politique, c'est un projet qui doit être en fait assumé, y compris sur un plan financier. Donc ça coûte de l'argent, et comme toujours, quand quelque chose coûte de l'argent, c'est un problème de distribution. Qui paye? Qui bénéficie? Qui arbitre? Donc aujourd'hui, le grand unanimisme écologique, ça ne fonctionne plus. Je pense que quand même, on commence à bien s'en rendre compte. Il y a plus grand monde aujourd'hui qui plaiderait pour ce genre de stratégie. Bon, même si ça reste un petit peu comme un héritage chez les Verts français. Par contre, là où peut-être il y a un certain consensus sur l'idée de dire que c'est des politiques conflictuelles, comment on tranche les dilemmes? Qui arbitre? Qui paye? Qui bénéficie? Alors là, la question est encore extrêmement ouverte.
En fait, vous assumez le fait que l'adaptation au changement climatique est foncièrement politique au sens où elle suppose des arbitrages. C'est peut-être ça qui n'est pas assumé officiellement, publiquement, par un certain nombre de responsables. Et en cela, on voudrait comprendre quelles sont les grandes lignes de fracture qui doivent être assumées politiquement, et pourquoi ne le sont-elles pas? Pouvez-vous nous donner des exemples?
Oui, alors vous dites adaptation, il y a l'adaptation, c'est important, mais il y a aussi ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire la réduction des causes du changement climatique. Il ne faut pas juste s'adapter, hein, faut aussi le ralentir. Alors, il y a plein de manières d'aborder le problème, mais on peut dire il y a trois lignes de fracture principales. La première et la plus simple, c'est en fait les inégalités de contribution à la crise climatique. Grosso modo, les inégalités de contribution à la crise climatique recoupent les inégalités de richesse. En gros, plus vous êtes riche, plus vous émettez de gaz à effet de serre, plus vous êtes pauvre, moins vous émettez. Sauf qu'en réalité, le diable est dans les détails, puisque la courbe d'émissions ne suit pas exactement la courbe des revenus. Par exemple, si vous faites partie, mettons, du 3 ou 4e décile de revenus, mais que vous habitez à la campagne, que vous avez une voiture un peu ancienne, que votre maison ou votre appartement est mal isolé, votre niveau d'émission va être supérieur à celui, mettons comme moi, classe moyenne supérieure urbaine, j'ai pas de voiture, ou enfin je l'utilise quasiment jamais, j'habite dans un logement très récent, que je chauffe quasiment jamais, je prends le métro, etc. Donc, alors, il y a les ultra-riches, là c'est vraiment, c'est des niveaux d'émission absolument hallucinants, donc il y a quasiment rien d'autre à faire que quotas, sanctions, réglementations. Mais pour l'énorme majorité de la population, en fait, la question est compliquée. L'une des questions les plus importantes à poser, c'est celle de ce que certains économistes, comme mon collègue Antonin Potier, appellent les émissions contraintes. Les émissions contraintes, en fait, c'est celles qui ne sont pas liées à des abus des schémas de consommation, mais en fait, au fait qu'on soit emprisonné dans des modes de vie, par exemple la distance entre lieu de travail et lieu de résidence, qui sont fortement émetteurs de carbone, qui sont en fait historiquement liés à des choix de planification urbaine, notamment, ou des choix sur le temps de travail aussi, qui sont faits. Et libérer les gens de cette contrainte, d'abord, c'est très bien, parce que quand vous vivez dans une maison mal isolée, avec une vieille voiture loin de votre travail, ben, en fait, vous vivez mal. Accessoirement, vous mangez mal aussi, parce que la mauvaise nourriture est moins chère que la bonne. Donc, on libère les gens en termes de santé, de qualité de vie, etc. Par contre, et ça, toutes les études, tous les sondages le disent, tout le monde a bien compris que c'est une question de politique publique et les leviers individuels, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est les inégalités au niveau des causes. Il y a les inégalités au niveau des impacts. Même chose, en fait. Grosso modo, plus vous êtes pauvre, plus vous allez être impacté. Plus vous êtes riche, moins vous allez être impacté. Tout simplement parce que vous avez moyen de vous protéger. Soit en vous déplaçant, soit en investissant dans... bon, sorte de choses qui permettent de se protéger.
Est-ce que vraiment les super riches peuvent se protéger contre le changement climatique?
En tout cas, ça fait très longtemps, il y a des études, ça fait très longtemps qu'ils y réfléchissent, et les super super riches investissent dans des bunkers, des villas dans des régions dont on pense qu'elles seront moins impactées, typiquement la Nouvelle-Zélande, les super riches adorent la Nouvelle-Zélande ou les pays nordiques. Évidemment, cette capacité d'adaptation, ça coûte très cher et l'immense majorité de la population n'y a pas accès. Là aussi, c'est la raison pour laquelle c'est essentiellement une question de politique publique. Par exemple, la mairie de Paris avait lancé un projet de réflexion sur l'adaptation aux chaleurs extrêmes, où on se rend bien compte que ça veut dire rénovation du bâtiment, retracer les rues, végétaliser, rajouter des étages. C'est un combat contre les bâtiments de France pour sortir du toit en zinc. C'est du structurel, en fait. C'est pas de l'individuel. Donc, au niveau des inégalités d'impact... là aussi, vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ces histoires-là, c'est que ça nous oblige à renouer avec quelque chose qui était très présent dans la vie politique, notamment après la Seconde Guerre mondiale, qui sont, en fait, des grandes visions d'avenir modernisatrices basées sur des grands travaux qui fournissent de l'emploi, de la richesse et un imaginaire collectif. Ça, moi, je trouve que malheureusement, dans les voies politiques aujourd'hui, dans l'écologie, on n'a pas beaucoup ce discours-là. On a plutôt un discours qui consiste à désigner des responsables. Alors, c'est très important de le faire, mais ça suffit pas. Peut-être un peu culpabiliser, regretter, une certaine nostalgie, mais la projection dans un avenir avec des nouvelles infrastructures, ça, on le fait peu. La troisième, et en fait le plus intéressant, c'est les inégalités dans le rapport à la transition elle-même. C'est-à-dire faire une transition énergétique, écologique, climatique, bah, ça veut dire que vous avez des filières industrielles que vous allez décarboner. Donc ça veut dire, au lieu de faire de l'acier à Dunkerque avec du charbon, du pétrole ou du gaz, vous allez le faire avec de l'électricité. Ça coûte cher, c'est pas tout à fait les mêmes qualifications professionnelles, donc ça a un impact sur la vie des gens, sur l'État aussi, qui là, en l'occurrence, donne de l'argent. Si vous appartenez à une filière industrielle qui ne peut pas être décarbonée ou dont le modèle économique est en danger, par exemple l'aviation, en France, c'est très largement le cas, le transport routier, ou on peut trouver toutes sortes d'autres exemples. Là, ça veut dire quoi? Chômage ou reconversion? Mais dans ce cas, qui paye pour la reconversion? Est-ce que les gens vont leur demander de déménager, de rester, mise en retraite anticipée? Je sais pas. Là, c'est vraiment une question de modèle social, d'anticipation. Et puis, il y a des filières industrielles émergentes, plus compatibles avec la transition, dans les énergies renouvelables, dans le recyclage, dans les services, dans l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces filières-là aussi, il faut les aider pour qu'elles soient attractives en termes d'emploi. Et parce que c'est là aussi que vous avez des grands bassins de population, en gros, qui sont la toute petite classe moyenne, qui a déjà été très largement perdante de la mondialisation. Et si les gens, en fait, se considèrent que après avoir été perdants de la mondialisation, ils vont en plus être perdants de la transition climatique, bah non seulement on va pas les faire monter à bord du mouvement démocratique, mais en plus ça risque de résister. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc la transition elle-même est potentiellement une source d'inégalité. On sait par exemple que les emplois qui vont être créés dans le secteur, disons, vert ou climatique, sont tendanciellement des emplois plutôt qualifiés, plutôt urbains. Il y a des études très intéressantes qui montrent qu'à l'échelle européenne, mais française aussi, c'est des emplois qu'on va plutôt trouver dans les grandes métropoles actives.
C'est quel type d'emploi justement ?
C'est beaucoup d'ingénieurs en fait. Ou, encore une fois, la recherche, des choses comme ça. Donc c'est des emplois qui vont plutôt aller dans les grandes métropoles déjà attractives et beaucoup moins dans les périphéries, les régions un peu en perte de vitesse. Et à l'échelle européenne, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, il y a un effet double peine, voire triple peine. Vous avez moins bénéficié de l'industrialisation, vous avez plus été impacté par les conséquences de la désindustrialisation et des pollutions, et vous allez encore être plus impacté par le fait que les nouveaux gisements d'emploi ne sont pas chez vous. Donc là, il y a ce qu'on appelle parfois un risque transitionnel qui est extrêmement important et qui nourrit le backlash, qui nourrit la résistance à la transition.
Alors, on l'a bien compris, en fait, les enjeux sont à la fois structurels et systémiques. Et on a l'impression finalement que les discours et les mesures politiques en la matière sont pas à la hauteur. Il y a un décalage entre ces enjeux, la nature de ces enjeux et finalement les réponses qui sont construites. Est-ce que c'est de la faute finalement des responsables politiques, des politiques publiques qui sont menées? Et c'est une manière aussi de mettre, non pas en accusation, mais en responsabilité peut-être des partis politiques qui ont un rôle à jouer, derrière ou avec des associations, des ONG qui sont très actives en la matière. Et dans votre cas, vous avez lancé un collectif, Construire l'écologie, où vous théorisez notamment l'idée de « green blaming ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept, pourquoi l'avoir forgé et en quoi précisément il peut être utile pour traduire, expliciter les enjeux face auxquels nous sommes confrontés?
Oui, alors effectivement, il y a quelques semaines, très récemment, j'ai lancé avec pas mal d'amis, de collègues, de camarades, un collectif qui s'appelle Construire l'écologie. D'abord parce que moi je suis enseignant, chercheur, et en fait, l'impact que je peux avoir dans le débat public en tant qu'individu est quand même assez limité, et travailler en collectif, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis c'est aussi un constat, hein, c'est ce que je partage avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, en fait, l'espace public, l'espace politique est structuré aujourd'hui d'une manière telle que avoir un discours à la fois honnête et efficace sur la transition, c'est extrêmement coûteux politiquement, pour les raisons en fait que j'ai indiquées en filigrane tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une masse critique de la population qui a un rapport attentiste, voire sceptique à l'égard de la transition, parce qu'il pressente, en bonne partie à juste titre, que les mesures politiques qui vont être prises vont prendre la forme d'une sanction, de limitation, de restriction. Donc c'est pas vendeur. Et quand vous cherchez les suffrages, si c'est pas vendeur, vous pouvez pas le faire.
Donc ce qu'on appelle l'écologie punitive.
Alors voilà, c'est ça. Du coup, on en est amené à ne pas vouloir faire de l'écologie punitive. Mais si personne ne reçoit aucune punition, on n'avance jamais. Donc bon, c'est très compliqué. Nous, à Construire l'écologie, comme on ne veut pas se présenter au suffrage démocratique, on est libéré de cette contrainte structurelle. Et donc, on a la possibilité de dire aujourd'hui, malheureusement, le choix devant lequel on est posé, c'est soit pas de transition du tout, statu quo, parce que c'est pas la France qui émet le plus dans le monde en un nucléaire, parce que les décisions ne sont pas assez démocratiques, parce que c'est trop coûteux, ça va pas pour notre modèle de compétitivité, etc. Donc pas de transition du tout, ça c'est ce que dit la droite, l'extrême droite, ou une transition de mauvaise qualité. Ça c'est malheureusement ce qu'est en train de faire le gouvernement. C'est-à-dire une transition qui... Enfin, ces pilotes ont très bien compris qu'il y avait des arbitrages structurels extrêmement importants à faire, mais on le voit très bien là avec le cas de la crise agricole, à chaque fois qu'il y a une résistance d'un lobby un petit peu puissant, comme c'est le cas de la FNSEA, on fait un pas en arrière sur les réglementations, sur les phytos par exemple, et puis c'était le cas évidemment il y a quelques années au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire une transition qui Moi, j'ai le sentiment, dans la définition des objectifs est bien construite. Je pense qu'au SGPE, quelqu'un comme Antoine Peillon a parfaitement conscience...
C'est quoi le SGPE ?
Le Secrétariat Général à la Planification Écologique, qui est une institution qui dépend directement de Matignon, donc dirigée par quelqu'un qui s'appelle Antoine Peillon. Dans cette institution, on a très bien compris, en fait, quelles sont les marges de manœuvre qu'a l'équipe gouvernementale pour satisfaire les engagements pris, par exemple, au moment de l'accord de Paris. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est le rapport de force positif avec les forces contraires. Quand, par exemple, le PDG de Stellantis râle en disant « bah nous, on va pas passer tout de suite à l'électrique parce que ça nous coûte trop cher, l'État nous aide pas assez, il n'y a pas assez de clientèle », personne dans l'État ou SGPE ou ailleurs peut dire à Tavares « bah en fait, maintenant, les règles du jeu, c'est nous qui les définissons, c'est pas vous ».
Mais donc, Bélire, vous vous interrogez sur le concept de « green blaming ».
Oui, pardon, je fais des
je rebondis sur le fait que j'ai employé à dessein, avec une petite pointe de sarcasme, il faut bien le reconnaître, l'expression d'écologie punitive. Est-ce que ce sont deux concepts que vous liez ? Moi, j'ai l'impression, je l'ai employé avec sarcasme, parce que j'ai l'impression que le terme d'écologie punitive est utilisé de manière assez habile pour, en fait, suggérer qu'on peut toujours reporter les mesures à prendre pour mitiger ou pour réduire ou pour compenser les risques écologiques. Est-ce que vous pensez que ces notions sont liées ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, c'est assez proche. Alors, en fait, nous, quand on a lancé cette note qui a accompagné la création du collectif sur le Green Blaming, ce qu'on voulait essayer de faire, c'était d'identifier de manière assez fine un moment politique. En fait, Green Blaming désigne un moment. C'est-à-dire que, historiquement, les groupes sociaux qui avaient intérêt à éviter les réglementations environnementales disaient plutôt « il n'y a pas vraiment de problème » ou alors « ce problème n'est pas très grave » c'était ce qu'on appelait le greenwashing, on invente des solutions qui n'en sont pas vraiment. Green Blaming, ça témoigne d'une période où il y a un consensus beaucoup plus large sur la gravité de la crise et sur le fait que quelque chose doit être fait. Donc on nie pas le problème, par contre on s'attaque aux solutions. Si on dit par exemple il faut électrifier le parc automobile, alors on va dire « ah oui mais dans ce cas on ruine l'industrie automobile française parce qu'on va acheter des voitures électriques chinoises ». Et c'est vrai que pour l'instant les voitures électriques chinoises sont quasiment, c'est pas deux fois, mais 40 ou 50% moins chères que celles qui sont produites en Europe. Si on dit il faut réduire le cheptel bovin en France, ah bah oui, mais c'est la ruine du modèle agricole français. Si on dit il faut rénover en masse les bâtiments et réglementer la mise à la location des passoires thermiques, alors on va dire ah bah oui, mais on raréfie le parc immobilier disponible, ça fait augmenter les prix, c'est pas bien. Et accessoirement, d'ailleurs, quand il y a des budgets d'aide aux rénovations, à la première mesure d'austérité, ils sont réduits. Donc vous voyez, en fait, le green blaming consiste à dire « oui, nous sommes d'accord avec le GIEC, la COP, même à la limite les ONG, c'est grave, c'est urgent, il faut faire quelque chose, mais aucune des mesures réelles, efficaces et possibles pour décarboner notre mode de production et notre mode de consommation ne trouve grâce aux yeux des gens qui s'y adonnent, pour une raison toute simple, c'est que ça heurte leurs intérêts immédiats, à court, à moyen terme. »
Donc, leurs intérêts électoraux.
Les intérêts économiques dans le cas des acteurs industriels, les intérêts électoraux dans le cas des acteurs politiques. La grande difficulté, c'est que, effectivement, la plupart des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des mesures qui ne vont pas sans risque. Effectivement, ça frustre toujours quelqu'un. Le problème est de savoir si ça frustre une minorité favorisée, disons, dans ce cas, c'est une question de justice sociale, ok ? Si ça frustre une majorité moins favorisée, dans ce cas, faut de l'accompagnement. Si ça frustre même une minorité carrément défavorisée, alors là, faut des mesures beaucoup plus proactives. Donc, d'une certaine manière, le green blaming, c'est ce qu'on peut appeler l'épouvantail écologique, c'est-à-dire si on répond à l'impératif climatique, on ruine notre modèle économique. Cet argument-là, aujourd'hui, il trouve un terreau extrêmement favorable politiquement, du côté des défenseurs du statu quo, mais aussi dans la population générale, pour la raison que j'indiquais. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un petit peu insécurisant, la transition, tant qu'elle est présentée comme une source de contrainte. Donc nous, on a voulu faire cette note d'abord pour répondre à des exemples concrets de green blaming, mais sur la question de la crise agricole, alors là, c'est festival de green blaming. Vraiment, l'expression s'applique à merveille. Et ce texte, en fait, s'inscrit dans une réflexion plus générale qu'on essaie de conduire, justement sur les angoisses créées par la transition. Il faut bien prendre acte du fait que les politiques climatiques, comme toutes les politiques, c'est une affaire de gagnants et de perdants. Si la majorité de la population considère qu'elle est perdante, c'est terminé.
Justement, dans votre démarche, vous appuyez sur la centralité de la connaissance scientifique en la matière, et c'est assez, j'allais dire, naturel, rationnel comme démarche. Est-ce que le problème ne se situe pas au-delà? Est-ce que, d'une certaine manière aussi, l'enjeu de la transition écologique ne va pas remobiliser quelque chose qui ressemble à la lutte des classes?
J'en profite pour compléter la question. C'est vrai que dans votre manifeste qui a été présenté lors du lancement de votre collectif Construire l'écologie, vous dites, je cite, « la transformation écologique demande un élargissement des connaissances scientifiques ». Mais est-ce que c'est vraiment le problème? Comme disait Bélire, on a déjà énormément de connaissances, et puis déjà Chirac, il me semble que c'était à Johannesburg en 2002, disait « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Est-ce que c'est vraiment ça le sujet? Est-ce que c'est un manque de connaissances scientifiques?
Alors en fait, il y a deux choses. D'abord, sur la question du réchauffement climatique et d'ailleurs du dépassement des limites planétaires en général, il y a un très très large consensus scientifique. Donc effectivement, là n'est pas tout à fait le problème. Et je dirais même que le fait de vouloir construire les politiques environnementales exclusivement sur la base du consensus scientifique a eu l'effet que j'indiquais tout à l'heure, un effet un peu d'unanimisme. Ça a été ce que certains auteurs, il y a déjà une vingtaine d'années, appelaient l'environnementalisme libéral, c'est-à-dire... Il y a un langage commun à l'humanité qui est la science, qui nous dit que la planète est en danger. Et puis ça tombe bien, en fait, parce qu'il y a un autre langage universel à l'humanité, c'est la technique et le marché. Et donc, on va, en faisant un petit peu de taxes sur les pollutions, qu'on appellera aujourd'hui taxe carbone, en incitant le secteur privé à intérioriser dans son business model via le marketing, via la recherche d'une clientèle plus lucide sur les risques, etc., va en fait s'adapter comme par magie à l'impératif climatique. Ça, c'est ce qui a prévalu, c'est ce que montrent là aussi de très nombreuses études, mais très anciennes, c'est ce qui a prévalu dans la construction de la diplomatie climatique par les Nations Unies. En tout cas, par exemple, le maître de ça, c'était Al Gore. Al Gore, il disait, bon, j'ai compris la science, je suis américain, j'incarne l'intérêt universel de l'humanité via accessoirement l'ONU, et il y a des solutions très simples qu'on trouve dans les marchés, dans la réorientation du système, disons, des grandes firmes multinationales. Ça, aujourd'hui, en fait, on sait que ça marche pas. On sait que les défauts d'allocation du capital par le marché sont beaucoup trop grands pour organiser une transition juste, efficace, rapide. Faut réintroduire de l'État, ou si ce n'est de l'État, en tout cas de la coordination. Hein, il faut des fonctions de coordination consciente de l'allocation du capital pour que celle-ci soit efficace, pour décarboner l'économie, pour relâcher la pression qu'on exerce sur le vivant sans avoir besoin, je sais pas, de réduire artificiellement la population humaine, par exemple, ce qui serait tout de même un problème. Donc oui, donc historiquement, le fait de dire la question environnementale, c'est une question scientifique, ça va avec plein de problèmes. Par contre, nous, quand on écrit dans le manifeste du collectif, effectivement, ça demande un élargissement des connaissances scientifiques, c'est parce qu'en fait, si on regarde un peu plus dans le détail, on a besoin d'innovateurs, d'ingénieurs. D'abord parce que tous les dispositifs techniques qui permettent de décarboner notre modèle productif n'existent pas. Il y a des gains de productivité, il y a des gains d'efficacité à conquérir encore dans les panneaux photovoltaïques, dans les pompes à chaleur, dans les batteries. Les batteries, c'est un domaine où on fait des progrès scientifiques extrêmement importants. Et moi, je ne fais pas du tout partie des gens, alors très très loin de là, qui vont vous dire que c'est l'écologie ou la science, ou l'écologie ou la technique. Pas du tout. Je pense que l'écologie se situe au contraire dans la grande trajectoire de la promesse d'émancipation de l'humanité par la raison, par la science, par la technique. C'est d'autant plus le cas avec la question climatique. Va se poser très très vite, se pose déjà la question de la compensation des émissions carbone. Est-ce qu'il faut faire de la géo-ingénierie? Est-ce qu'il faut récupérer une partie des gaz à effet de serre surnuméraire dans l'atmosphère? Si on peut le faire, pourquoi pas? Ce serait même une excellente nouvelle. Mais avec quelle technologie, sur la base de quelles décisions, de quels acteurs. Donc c'est pour ça que nous on dit l'écologie, c'est aussi renouer avec notre amour de la technique, parce que comprenez bien que la transition, ça veut dire tout simplement qu'il faut changer toutes les infrastructures sur lesquelles on vit. Électricité, traitement de l'eau, production alimentaire, évidemment l'énergie en général. Donc, il va falloir beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui vont faire de la maintenance. Il va falloir que les gens comprennent comment ces infrastructures fonctionnent pour qu'ils les utilisent intelligemment.
Mais la transition par l'innovation, c'est pas le postulat des responsables politiques en la matière?
Mais ça, je pense qu'il y a un nuage de fumée un peu délétère à ce sujet-là. Toutes les phases de transformation de l'économie politique sont liées à des changements techniques. Le modèle social distributif européen de l'après-guerre, c'est lié au fait que le pétrole n'était pas cher et qu'il y avait des fenêtres isolantes qui créaient des familles nucléaires repliées sur elles-mêmes, etc. Enfin, l'histoire des techniques et l'histoire politique sont extrêmement liées l'une à l'autre. Aujourd'hui, quand on entend effectivement la question climatique, c'est simplement une question d'innovation, ça peut venir d'un discours qui vous dit « ça n'est que ça ».
Oui, c'est ça, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas opposer innovation et sobriété.
Exactement, c'est des gens qui vont vous dire, c'est ce qu'on appelle des fois le technosolutionnisme, mais je déteste cette expression, parce qu'il y a plein de solutions techniques hyper intelligentes pour faire de la méthanisation, pour mettre des panneaux solaires dans plein de coins que vous imaginez même pas, pour faire des réseaux de chaleur. La technique, c'est essentiel. Mais la technique, c'est profondément politique, parce que c'est des choix, d'abord. Bon, l'exemple type en France, c'est le nucléaire. Est-ce que le nucléaire va nous sauver du changement climatique? Ben non, parce qu'une centrale nucléaire, ça met 15-20 ans à être construite, raccordée au réseau. Nos objectifs, c'est pour 10 ou 15 ans aussi. Donc en fait, c'est très bien si on a quelques centrales nucléaires en backup dans quelques années, mais le problème, c'est que la demande d'électricité va augmenter, quasiment doubler d'ici à 2050, parce que vous aurez des voitures électriques et des chauffages électriques. Et qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et le moment où ces nouvelles centrales vont être raccordées au réseau? Ben là, si vous n'avez pas d'éolien, de solaire, de gain d'efficacité, de sobriété, vous n'y arrivez pas. Donc, à chaque fois qu'on oppose solution technique et solution, disons, culturelle, changement de comportement, on se plante complètement.
Bélire, tout à l'heure, parlait de la responsabilité des partis. Je voudrais aussi qu'on réfléchisse à la question dans l'autre sens. Pourquoi nous, la population, les citoyens, on ne choisit pas des dirigeants qui sont en mesure de nous proposer un horizon clair ou à tout le moins des arbitrages clairs? Est-ce que c'est simplement parce qu'il n'existe pas des dirigeants qui font ça? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose aussi du côté de la population qui ne souhaite pas, d'une certaine manière, renoncer à quelque chose ou ouvrir les yeux face à ce qui se passe?
Oui, c'est vrai qu'une des choses très curieuses à propos de ce nouveau, disons, compromis socio-économique qu'il faut inventer pour sortir de l'impasse climatique, c'est qu'il n'est pas très vendeur. Historiquement, hein, encore une fois, le grand compromis socio-économique de l'après-guerre, ce qu'il avait d'assez extraordinaire, c'est qu'il pouvait mettre d'accord des communistes, des sociodémocrates, des gaullistes, partie assez large de la droite, parce que comme les gains de productivité à l'époque étaient énormes, principalement en raison du faible coût de l'énergie, bon ben en fait l'arbitrage entre satisfaire les intérêts privés et, ou disons, la richesse du capital et satisfaire les intérêts du travail, c'était à peu près possible. Aujourd'hui, c'est vrai que l'émergence d'un nouveau compromis socio-économique, alors c'est ce qu'essaient de faire les démocrates américains avec le plan IRA, d'une certaine manière ce que fait la Chine aussi. En Europe, on a beaucoup de mal, c'est même un peu l'inverse, c'est-à-dire que plus vous parlez de ce nouveau compromis socio-économique, plus votre base électorale se réduit. Elle se réduit en fait à nous, quoi. Là, autour de la table, des gens urbains, avec des diplômes, dont le travail n'est pas lié à des émissions carbone. Non, mais il faut bien avoir conscience de ça aussi. Et sur les deux pôles opposés de la stratification socio-économique, chez les plus vulnérables et chez les plus riches, là, vous avez la coalition du statu quo. C'est-à-dire, d'un côté, les gens qui refusent parce qu'ils sentent que ça va les insécuriser, que ça va leur coûter cher, et de l'autre, ceux qui refusent parce que, ils savent que c'est pas dans leur intérêt économique, politique, immédiat. Donc, il y a un phénomène, vous voyez, de prise en sandwich de la coalition post-carbone par la coalition carbone. Ça a été très bien montré par des études quantitatives, par des politistes aux États-Unis. On commence à réussir à le faire aussi en Europe aujourd'hui. Donc, évidemment, ça a des implications sur les dynamiques électorales. La conclusion de tout ça, c'est que, pour l'instant, il n'existe pas d'offres politiques qui répondent à ce problème. Toutes les études montrent, un sondage récent de l'ADEME le montre très bien, qu'aujourd'hui, il y a une immense majorité de la population en France et en Europe qui a très bien compris que la situation était très grave, qu'on pouvait en sortir que par des politiques coordonnées d'action de l'État, mais que, justement, les gens sont en attente de cet accompagnement qu'ils ne sentent pas encore arriver. Après, de ce point de vue, si on parle très concrètement de solutions, je vous dirais des choses qui ne sont pas très originales et que vous entendrez probablement de la part d'autres intellectuels, disons, de gauche. On a un problème de fiscalité. On a un problème aussi que je dirais qui est pas seulement quantitatif hein, de qui paye, mais aussi de ce que certains appellent la confiance politique. C'est-à-dire aujourd'hui, la France d'ailleurs est dans une situation assez gravissime. La confiance à l'égard du gouvernement est très très basse, ce qui s'exprime en partie par l'abstention électorale. Et c'est vrai que comme cette question de la transition est extrêmement difficile, vous marchez sur une ligne de crête en permanence entre différents groupes d'intérêts très influents. Et si vous voulez dire vraiment, c'est par là qu'on va, voilà les moyens et voilà comment on va y arriver, sur la technique, sur l'efficacité, sur la sobriété, sur les instruments de politique publique, si vous n'avez pas le crédit de la population, vous n'y arrivez pas. Il y a même une partie très importante de l'électorat du gouvernement actuel qui fait partie de la coalition du statu quo, les retraités notamment, malheureusement. Donc, en réalité, la présidence Macron n'a jamais reçu un mandat net pour la faire. Ce qui explique qu'elle ne la fasse pas. Je veux dire, on peut râler autant qu'on veut sur le fait qu'il n'y ait pas de politique de transition exigeante, mais en fait, ce serait plutôt le contraire qui serait étonnant. Il n'y a pas de mandat. Donc, en face, quelle est l'offre? Bon, bah, en fait, le problème de l'offre en face, c'est qu'elle est désagrégée, en réalité. Aujourd'hui, il y a des partis à gauche qui parlent de planification écologique. C'est très bien la planification écologique. Le problème, c'est qu'il y a un côté un peu rétrofuturiste. C'est-à-dire, on va se projeter dans le passé pour inventer l'avenir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne parle pas, à qui ça peut avoir un effet quasiment autoritaire. Donc, planification, on voit un peu l'ORTF, le général de Gaulle, les images en noir et blanc, et ça fait un peu stresser. L'autre possibilité à laquelle j'avais un petit peu contribué à réfléchir, c'était l'idée de... Ce que j'avais appelé l'écologie de guerre, au fait, l'idée de présenter l'impératif climatique comme un impératif stratégique, un impératif de sécurité, en fait.
Et là, l'avantage qui écrase le reste.
Bah, l'avantage du principe de sécurité, c'est que ça met quasiment d'accord tout le monde. En fait, le principe de sécurité est le seul dans l'histoire des idées politiques et dans l'histoire des institutions politiques qui fait suffisamment peur au capital pour qu'une partie, disons, des élites conservatrices ou libérales conservatrices finissent par se dire « Ouais, bon, ok, c'est chiant, mais allons-y ». Donc, vous voyez, on peut faire des politiques environnementales construites comme des politiques sociales. Ça, c'est très bien, mais ça coûte cher et c'est pas trop l'ambiance politique en ce moment. Et la gauche a du mal à se mettre d'accord là-dessus. On peut faire des politiques environnementales et climatiques construites comme des politiques de stratégie géopolitique. Ah, bah, là-dessus, la gauche est totalement divisée, hein, entre, disons, la France insoumise et le reste de la gauche, en gros. Donc ça, c'est désastreux. Et puis, bon, après, il y a des questions, évidemment, plus de détails sur la solution, enfin, l'attitude qu'on a à l'égard du nucléaire, par exemple, l'attitude qu'on a, justement, sur le choix entre est-ce que c'est plutôt technique, plutôt sobriété. Là, c'est plutôt un clash entre les écolos et le reste. Moi, je pense qu'un terrain commun devrait pouvoir être constitué. Nous, avec le collectif Construire l'écologie, on n'est pas un parti politique et on est aligné sur aucun parti, mais on se donne quand même en partie pour objectif de fournir des éléments crédibles de nature à amoindrir ces clivages à gauche, mais le travail est encore très loin.
D'une certaine manière, s'il n'y a pas actuellement d'offres politiques à la hauteur des enjeux, c'est parce que les solutions ne sont pas simples. Et qu'elles sont, elles mobilisent forcément ou elles portent atteinte forcément à des intérêts prégnants de notre société. Et concrètement, dans un contexte post-gilet jaune, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ne peuvent pas abandonner leur véhicule polluant pour s'acheter une voiture électrique? Et qu'est-ce qu'on dit aussi à ceux qui sont prisonniers d'un emploi dans une industrie polluante? Comment peut-on leur parler pour vivre concrètement, à l'échelle individuelle, cette transition écologique?
La question est bien posée dans le sens où il y a effectivement deux aspects. Il y a l'aspect changement de comportement, schéma de consommation, puis il y a l'aspect changement de structure d'emploi. Côté changement de consommation, en fait, vous dites qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Moi, je vous répondrais, en fait, d'abord, disons-leur quelque chose. Moi, je trouve ça quand même complètement hallucinant que dans un pays riche comme la France en 2024, il n'y ait pas des campagnes de matraquage idéologique permanent, des affiches dans la rue qui expliquent aux gens, en fait, comment faire pour consommer moins d'énergie, pour s'alimenter mieux, etc. Et qu'il n'y ait pas aussi, évidemment, des politiques publiques d'accompagnement de ça. Par exemple, il y a eu la politique de leasing de voitures électriques à 100 euros, ce qui est super, mais c'est un problème de dimensionnement, en fait. Il y a je ne sais plus combien il y a eu de personnes, enfin de foyers qui ont eu accès, mais c'est ridicule.
Donc,
en fait,
oui, mais je crois que ça a dépassé les objectifs et qu'ils ont arrêté pour des raisons budgétaires.
Voilà, donc en fait, c'est des très bonnes politiques publiques, Mais avec le climat, tout est un effet de masse. C'est combien de personnes que vous faites changer qui compte. C'est pas le fait d'en faire changer quelques-unes. Donc si c'est 10 000, génial, mais en fait ça sert à rien. Quand on sera à 1 million, 2 millions, 10 millions, là ça va commencer à peser. Donc en fait, je veux vraiment insister sur le fait que au niveau des changements de schéma de consommation, il n'y a aucun problème technique. Construire des logements bien isolés, produire de l'alimentation de qualité compatible avec les saisons, la fertilité des sols, c'est possible. Donner accès à l'éducation, à la santé, etc., sans détruire les limites planétaires, c'est possible en fait. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc je pense qu'il faut d'abord rassurer les gens sur l'aspect technique. C'est possible avec de l'électricité, avec de l'hydrogène, avec parfois de l'atome, avec de l'efficacité, etc., de faire des économies et de passer dans le goulot d'étranglement socio-technique. Et puis de l'autre côté, je pense qu'en fait, il faut simplement envoyer le message que c'était simplement un problème distributif. Donc, battez-vous pour que soit mis au pouvoir une plateforme gouvernementale qui a pour mission de régler le problème d'inégalité climatique. Et tant que ça n'arrivera pas, je veux dire, les gens peuvent toujours se plaindre, mais rien ne changera.
Vous l'avez bien montré tout au long de l'épisode que des intérêts seront lésés. C'est tout l'apport de vos travaux, hein, de bien montrer ça, qu'il y a une forme de conflictualité à assumer dans la transition écologique. Mais comment on assume que des intérêts seront lésés et on se maintient en même temps dans la voie démocratique? Comment on rend acceptable ce constat pour une majorité? Et donc, comment on fait en sorte que ce que vous dessinez là advienne dans les urnes et qu'on ait vraiment des dirigeants qui vont mettre en place ce type de politique publique?
Dans le monde de l'environnementalisme social, il y a eu très longtemps l'idée que plus on met de gens autour de la table de la décision, plus on aboutit à des décisions qui sont justes, efficaces, durables. C'était, Convention citoyenne pour le climat, des mécanismes comme ça. Moi, j'avoue que je suis assez, voire en fait très sceptique par rapport à ce genre de stratégie, parce que pour moi, la démocratie, c'est pas une question de combien de personnes vous mettez autour de la table pour décider, c'est une question de à combien de personnes vous rendez service. Et donc, comme la question climatique est essentiellement une question en fait énergétique, technique, agricole aussi, etc., vous pouvez pas attendre à ce que votre population très large se mobilise comme ça sur des questions qui sont quand même assez difficiles à maîtriser. Par contre, moi, je pense qu'il faut raisonner dans l'autre sens. Il faut une puissance publique qui a la capacité de s'adresser à sa population, y compris d'ailleurs sur le mode de l'injonction. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il faut des campagnes publicitaires partout qui martèlent des messages. Un truc un peu paternaliste, si on peut dire. Donc, envoyer des messages. C'est-à-dire que envoyer des messages allant dans la direction des changements de comportement, ce qui permet de faire en sorte que les gens ont compris qu'ils sont en train d'entrer dans une nouvelle ère historique et qu'ils vont, une fois qu'ils auront goûté à certains fruits de la transition, notamment en termes de santé, hein, parce que c'est le plus immédiat, en termes d'alimentation aussi, ils en demanderont plus.
Mais ça implique aussi que les personnes qui gouvernent explicitent le fait, oui, que la majorité, en fait, serait, dans un modèle tel que vous le décrivez, serait gagnante et que c'est une minorité qui serait amenée à contribuer davantage si on suit le modèle que vous décriez. Et c'est peut-être ça qui emportera l'adhésion.
Si vous voulez, aux États-Unis, la transition est en train de se faire sous une modalité totalement différente qui est purement sous une modalité de substitution technique. En gros, les Américains disent on va vivre exactement de la même manière qu'avant, simplement on aura des moteurs électriques au lieu d'avoir des moteurs thermiques. Vous avez le modèle chinois, super efficace aussi, enfin ça prend un peu de temps, mais ça va être super efficace. Par contre, complètement vertical, zéro démocratie, le Parti communiste chinois a compris que sa légitimité politique et sa durée de vie au sommet de l'État dépendaient de sa capacité à anticiper les risques climatiques. Donc ils le font.
Mais est-ce que ces deux sociétés-là, ces deux pays, parviennent par ailleurs à vraiment faire face au changement climatique?
Je pense qu'ils vont y arriver très très bien. Je pense que la Chine et les États-Unis auront décarboné leurs économies.
Mais ils renoncent pas du tout à un modèle de surproduction.
Non. Non, bah alors les risques vont se reporter sur le sud, qui vont produire les matériaux de transition, etc. Ils seront moins importants qu'aujourd'hui, mais sous l'angle strictement climatique, je pense que la Chine et les États-Unis vont probablement remplir leur l'agenda de décarbonation 2050 pour les États-Unis, 2060
oui,
pour la
donc,
Chine.
C'est donc une stratégie non coopérative qui conduit à ce que le monde soit pas meilleur sur le plan environnemental.
Oui, bien sûr. Bah, ça dépend de ce qu'on appelle l'environnemental, mais il y aura des conséquences environnementalement négatives de la transition, mais peut-être qu'on dépassera pas 2,3 degrés. Et surtout, ce qui est le plus important pour les États-Unis, c'est qu'ils vont garder leur position de prééminence. En Europe, on est en train d'essuyer les plâtres. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est maintenir le modèle social, et non seulement le maintenir, mais en plus l'utiliser pour rendre acceptables les contraintes politiques du climat et engendrer une dynamique positive d'adhésion, de consolidation. Donc en gros, un modèle socio-écologique européen. On en est très loin, mais enfin, je veux dire, je pense que c'est nécessaire de se battre pour ça. Parce que le modèle américain, je suis pas sûr qu'on en veuille vraiment, et effectivement, d'un point de vue strictement environnemental, c'est pas génial. Le modèle chinois, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'on n'en veut pas. Donc, on est en train d'inventer quelque chose qui n'a jamais existé, donc c'est pas très étonnant que ça prenne du temps. Faut pas stresser, faut pas angoisser. Ça sert à rien d'être défaitiste, ça sert à rien de tomber dans la collapsologie ou dans l'espèce de d'aquabonisme, oh, ben, de toute façon c'est trop tard, les renouvelables c'est pas bien, etc. Il faut faire ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale dans l'esprit de reconstruction, de dialogue politique interparti, disons.
La société que vous appelez de vos voeux, les transformations qui sont nécessaires, qui sont devant nous dans les décennies à venir, suppose d'une certaine façon de s'affranchir du paradigme moderne du progrès qui était beaucoup vu à travers l'accumulation. Quelle forme prendrait cet affranchissement aujourd'hui? Comment on tourne le dos à des décennies d'aspiration à l'abondance, pour reprendre le terme qui figure dans le titre de votre ouvrage?
Alors, justement, ce à quoi il faut tourner le dos, c'est l'abondance au sens où je le définissais dans le livre. C'est-à-dire, abondance, ça voulait dire, depuis le XVIIIe siècle, on peut produire plus, consommer plus, parce que la nature ne répond jamais. C'est-à-dire, pour des raisons scientifiques, techniques, matérielles, la marge de manœuvre qu'on a pour repousser les contraintes qu'oppose la nature à notre action, elle est infinie. Ça, c'est l'abondance. Mais ça, c'est pas le progrès. C'est pour ça qu'à la question, moi, je réponds, ce à quoi il faut tourner le dos, c'est l'abondance entendue comme ça, mais c'est surtout pas le progrès. Parce que une des conclusions principales que je tire de mon travail d'histoire des idées, d'histoire des institutions, d'histoire des sciences, c'est que ce qui s'est passé essentiellement au XXe siècle, c'est que nous n'avons quasiment jamais réussi à profiter des retombées sociales du progrès. Le concept clé qui permet de comprendre ça, c'est le concept d'effet rebond. C'est-à-dire à chaque fois qu'on invente des machines qui permettent de faire plus en consommant moins, qui permettent de produire plus avec moins d'efforts humains, au lieu, en gros, de se reposer pour profiter de ces gains, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on produit encore plus. Et on crée des besoins pour satisfaire cette demande-là, qui, effectivement, est liée soit au pouvoir parasitaire d'une minorité de propriétaires capitalistes pour ce qui est de nos sociétés, soit, pour nos sociétés, mais aussi pour les sociétés communistes, au besoin des États, en fait, d'accumuler de la puissance via l'utilisation d'énergie pour ne pas être dans un rapport d'infériorité dans des contextes de conflits géopolitiques. Donc, en fait, l'abondance, elle est liée à une conception erronée de ce que c'est que l'émancipation. C'est-à-dire, on peut s'émanciper dans les limites. C'est vraiment ce que j'essaie de défendre dans ce livre. On peut même avoir un schéma qui, disons, d'un point de vue de philosophie de l'histoire, reste un schéma de progrès. On va vers le mieux. Mais le mieux n'est pas défini par, la manière dont on le définissait jusqu'au XXe et début XXIe siècle, par le plus. Voilà. Mais c'est quand même du mieux.
Donc, si je comprends bien, l'enjeu pour les décennies à venir et pour nos prochaines générations de dirigeants, ça va être être en mesure de proposer à la société une forme de progrès, une promesse de progrès, mais qui ne repose plus sur l'abondance.
Non, mais qui repose néanmoins sur des choix techniques, sur des choix sociaux qui ne peuvent être faits ailleurs qu'à l'échelle européenne, à mon avis.
Pierre Charbonnier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Ce podcast a été enregistré au studio La Seine. Il est produit par l'ACME et proposé par l'Obs. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et surtout, n'hésitez pas à nous écrire pour partager votre avis et nous indiquer si vous souhaitez que l'on traite certains sujets dans les prochains épisodes. À très bientôt.